French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde afin de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec vous et avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai rencontré Emmanuel un soir d'hiver de 2018 au Cambridge Innovation Center, à deux pas du MIT, juste à côté de Boston. À l'époque, Emmanuel venait juste d'arriver aux États-Unis avec sa femme et ses trois enfants, et il venait notamment pour développer son business, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, Home Exchange. Depuis, Emmanuel et moi, ainsi que plusieurs autres expats français entrepreneurs et passionnés, on a fondé et rejoint French Tech Boston. Et je vous promets qu'on y fait autre chose que boire du vin et de manger du fromage entre Frenchies. Emmanuel est un grand voyageur et n'en est pas à sa première expatriation aux États-Unis. Il vous donnera plus de détails. C'est par contre la première fois qu'il s'y expatrie avec sa famille. Depuis d'ailleurs, sa famille s'est agrandie. Son entreprise également et sa soif de découverte et d'aventure toujours plus présente. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Emmanuel Arnaud. Bonjour Emmanuel et bienvenue sur le podcast.
Bonjour Anne-Fleur, merci de m'accueillir sur ton podcast.
Avec grand plaisir. Alors Emmanuel, on se parle aujourd'hui depuis Boston. Depuis combien de temps est-ce que tu es aux États-Unis ?
Alors, moi je suis à Cambridge, je ne suis pas à Boston et pour moi c'est important.
Pardon.
Donc je t'en parlerai après si tu veux. Et je suis à Cambridge pour, voilà, je commence ma troisième année scolaire, mais c'est en fait pour moi ma troisième expatriation aux États-Unis.
Ah bah raconte alors.
Alors la première fois que je suis venu, c'était dans les bagages de mes parents, j'avais un an à quatre ans et on habitait à côté de Annapolis dans le Maryland.
Mais tu m'avais caché ça.
Et donc, j'ai appris l'anglais avant le français. Ensuite, je suis revenu il y a une dizaine d'années, donc quand j'avais de 26 à 28 ans, pour des études justement à Cambridge, Harvard, à la Kennedy School. Et après, je suis retourné en France. Et donc là, je suis revenu 10 ans plus tard avec ma femme et mes trois enfants. Et on en a eu un quatrième sur place, un petit Américain, donc pour une troisième expatriation aux États-Unis.
Ah oui, génial. Donc en gros, toi et les États-Unis, c'est un petit peu une histoire d'amour qui dure.
Exactement.
Et alors, pourquoi, donc, j'ai bien compris, donc, que tu as d'abord suivi tes parents. Si t'avais un an, t'avais pas trop le choix. Tu es revenu, donc, faire tes études dans la prestigieuse Kennedy School, qui est une école de Harvard. Et pourquoi est-ce que tu es revenu à Boston, donc, à Cambridge, pardon, il y a 3 ans?
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé mes études, donc, je suis rentré en France, j'ai suivi une femme qui avait trouvé un job en France. J'ai bossé pendant 3 ans et après, j'ai créé ma boîte. Et ma boîte s'est développée, donc c'était guest to guest, et elle s'est développée à tel point que j'ai commencé à racheter mes concurrents, dont mon concurrent américain qui s'appelait Home Exchange. Et Home Exchange était une entreprise assez particulière, en ce sens qu'elle avait 4 salariés aux États-Unis, mais beaucoup plus en Europe. Par exemple, on a un bureau maintenant à Zagreb, on a racheté Home Exchange, où il y a une quinzaine de personnes qui travaillent. Mais quand moi j'ai racheté Home Exchange aux États-Unis, il n'y avait pas grand monde, et du coup je pouvais choisir un petit peu où est-ce que je remettais mon mon siège social, parce qu'une partie des salariés, en fait, c'était les fondateurs qui partaient.
Et parce que tu voulais t'y installer de toute manière.
Exactement. En fait, je devais développer ma boîte aux États-Unis, à la fois parce que c'est un énorme marché, et puis parce que tous les acteurs géants du digital dans le tourisme sont américains, TripAdvisor, Airbnb, Expedia, Booking, et tout ça. Toutes ces boîtes-là sont américaines. Du coup, on a regardé la côte ouest, bien sûr, parce qu'il y a la Silicon Valley, c'est un peu la mecque pour les startups dans le digital, donc c'était assez excitant. Mais en fait, c'est trop loin de Paris, parce que c'est à Paris qu'on a notre siège social au niveau mondial avec la plupart de nos salariés. Et donc, voilà, c'est 9 heures de décalage horaire. Pour avoir des réunions en même temps, c'est compliqué. Moi, je vais depuis 2 ans, une semaine par mois à peu près en France. Donc, ça veut dire faire 11 heures d'avion et 9 heures de décalage horaire plutôt que 6 heures d'avion et 6 heures de décalage horaire. Du coup, c'était assez vite vu qu'il fallait que ce soit la côte Est. Sur la côte Est, il fallait une ville où il y a un bon écosystème de start-up, et ça, en fait, il n'y en a que deux, c'est New York et Boston. Et après, le choix entre New York et Boston, c'est là où on s'est rapproché de raisons qui étaient à la fois pro et perso. Du côté perso, ben, il y avait ma femme. On a réussi un truc qui a été super pour nous, qui est que Laure, travaillant pour Sodexo, qui est une grande entreprise avec près de 500 000 salariés, dont plus de 150 000 aux États-Unis, eh bien, elle a pu maintenir son emploi. Sodexo l'a accompagné dans cette expatriation. Donc, ça, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Mais une des conditions, c'était d'aller dans une ville où il y avait un bureau de Sodexo, ce qui était le cas à Boston et pas à New York. D'un point de vue perso encore, il y a un peu l'aspect qualité de vie. C'est-à-dire que ici, les choses coûtent un petit peu moins cher. C'est une ville qui est plus calme. On a des enfants en bas âge. C'est une ville qui est très, très nature. Voilà, on peut facilement aller faire du ski ou aller au bord de la plage. Et d'un point de vue pro, là aussi une ville un peu moins chère, une ville où il y a énormément de talents, parce que bon, il y a Harvard, MIT, mais il y a aussi 80 universités, donc trouver des personnes qui sont jeunes et motivées et compétentes, ben, c'est une super ville, et avec un bon écosystème de start-up qui nous plaisait bien, et notamment de start-up françaises avec la French Tech.
Voilà, avant de partir sur tout ça, je voulais te demander, parce que du coup, donc tu t'es expatrié en plusieurs fois, donc la première fois tu l'as subi, pas au mauvais sens du terme, mais tu l'as subi puisque tu as suivi tes parents. La seconde fois, du coup, tu es venu tout seul. Et la troisième fois, tu es venu, donc vous étiez 5, et puis quand vous repartirez, si vous repartez, vous serez 6. Comment est-ce que tu comparerais un peu finalement cette expatriation, cette grande aventure entre partir seul et puis avec toute sa famille? Tu peux nous en parler un petit peu?
Bien sûr. Alors en fait, la deuxième fois, je suis parti à moitié seul, au sens de je suis parti seul, mais j'étais déjà avec Laure, mais c'était assez récent, parce que quand mon avion a atterri pour l'année qui commençait à Harvard, c'était le jour, ça faisait un an qu'on était ensemble. Donc, voilà, c'était assez récent. Et en fait, la distance nous a aidé à nous décider. Et donc en fait, on s'est marié civilement en mars. Donc je suis arrivé en septembre pour commencer mon année à Harvard. En mars, on était mariés civilement. Donc je suis revenu en France pour les vacances de Noël pour faire notre demande de mariage, pour les vacances d'avril pour faire le mariage civil qu'on a fait assez rapide pour pouvoir.
Donc un an et demi après que.
D'accord. Voilà, c'était assez rapide et c'est une femme extraordinaire. Fallait pas que je la laisse partir, c'est pour ça. et voilà. Et donc on s'est marié rapidement par amour, bien sûr, mais aussi pour les papiers. Parce qu'on en reparlera peut-être, mais c'est un parcours du combattant d'avoir ses papiers aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on a fait le mariage civil assez rapidement et ensuite on a fait un mariage religieux pendant l'été. Et donc ma deuxième année, j'ai commencé avec ma femme. Donc je suis parti célibataire et je suis revenu marié. Voilà.
D'accord. Donc elle a pu venir avec toi. Elle a pu avoir quoi un visa pour pouvoir te suivre sur ta deuxième année à Kennedy.
Exactement. Donc quand t'es étudiant, alors moi de mémoire c'était un visa J1.
Un F1.
Un petit peu. Et donc je crois que tu as le droit au J1 quand tu as plus de la moitié de tes études qui sont payées par des bourses. Ce qui moi était mon cas. Il y a des super bourses quand t'es étudiant à Harvard, qui s'appelle la Fondation Arthur Sachs. Et donc quand t'es J1, un des avantages par rapport au F1, c'est que tu peux travailler. Moi j'avais un job étudiant qui m'aidait à payer mes études, et aussi ton conjoint peut travailler à condition d'avoir la work authorization comme toujours aux États-Unis, donc un processus qui prend 3-4 mois. Et donc Laure avait réussi à trouver un boulot en janvier. Elle était arrivée pendant l'été avec moi. De septembre à décembre, elle avait un peu pris des cours d'anglais et attendu sa work authorization. Et en janvier, elle avait réussi à commencer un boulot. On est donc rentré ensuite en France. Et 10 ans après, quand je reviens, alors c'est assez différent, mais finalement, ça avait beaucoup d'écho avec l'expatriation que j'avais vécue quand j'étais petit, parce qu'indépendamment des défis professionnels qui m'excitaient pas mal, il y avait aussi une aventure personnelle. Le fait d'offrir en fait à mes enfants ce que moi j'avais, ce dont j'avais bénéficié quand j'étais petit, c'est-à-dire le fait d'être bilingue en anglais, le fait d'être élevé un peu dans deux cultures, c'est quelque chose qui m'a toujours fait partie de mon identité et que j'ai toujours considéré comme une grande chance. Et donc j'avais envie de pouvoir l'offrir à mes enfants. Quoi. Il se trouve que ça a bien marché professionnellement, mais c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et puis il y a aussi un peu l'aspect études aux États-Unis, quoi, études au sens de l'école aux États-Unis, qui est extrêmement positive par rapport à une école en France qui peut parfois être un peu qui te montre tout ce que tu fais mal, alors que l'école aux États-Unis te montre tout ce que tu fais bien. Et c'est aussi quelque chose que je voulais offrir à mes enfants.
Offrir à tes enfants. Et c'est vrai que t'en parles, et c'est si je peux me permettre, finalement suffisamment rare. Alors, tous les invités là qu'on a eu sur le podcast nous parlent justement de cette bienveillance qu'il y a dans le système scolaire américain et qui est rafraîchissant, et puis qu'on est heureux d'offrir à nos enfants. Et puis c'est aussi, finalement, il y a énormément dans la communauté francophone de personnes qui envoient quand même leurs enfants dans l'école française. Tu peux nous en parler un petit peu, du coup, de ta décision et puis des grandes différences que tu as observées entre ces deux systèmes scolaires?
Ah oui, alors donc l'école française de Boston, c'est déjà un gros budget, donc c'est de l'ordre de $30,000 par an. Donc souvent ceux qui font ce choix-là, c'est assez souvent qu'ils sont avec une grosse boîte qui peut leur payer l'école. Mais par ailleurs, moi, même si j'avais pu me le payer d'un point de vue boîte, j'en aurais pas voulu. Je trouvais ça super de le mettre dans l'école publique. Déjà parce que le système éducatif américain est extrêmement bienveillant et prend l'enfant et le porte d'une manière que les Français ne font pas. Et donc, je trouvais ça super qu'ils aient vraiment cette expérience-là. Et aussi, en termes de langue, moi, c'est ce que mes parents avaient fait pour nous quand on était petits. T'apprends beaucoup plus rapidement l'anglais quand tu es dans un système américain. Voilà. Et on le voit en comparant avec nos amis qui ont leurs enfants dans une école française. Eh bien, leurs enfants parlent moins bien ou apprennent moins vite l'anglais. En revanche, ouais, je pense que lorsque on se pose la question du retour, ben, le retour est beaucoup plus facile. Ça le traîne
très bien.
Voilà. Et du coup, nous, cette année, on a mis nos enfants dans une école qui est à côté de Boston, qui s'appelle l'EFGB, qui permet de donner des cours du soir un peu deux fois par semaine à nos enfants pour essayer qu'ils aient quand même les acquis, notamment en termes de langage écrit, de règles de grammaire, conjugaison, orthographe, etc. Ouais. Donc, la langue française est riche.
Et truffé d'exceptions, ouais.
Exactement, ouais. Donc c'est un petit défi pour les enfants, mais c'est très bien. Et moi, mon vécu, c'est que quand on est arrivé, on a eu 3 à 6 mois difficiles. Alors, parfois, on croise des expats qui te disent, moi, mes enfants, en 2 mois, ils parlaient anglais. Bon, alors nous, ça n'a pas été notre vécu à nous. Les 3 premiers mois étaient un peu durs. Les enfants avaient du mal à un petit peu. Ils adoraient l'école parce que les gens étaient très gentils avec eux. Ils sont revenus au bout d'une semaine, ils avaient déjà des best friends et tout ça. Mais voilà, le fait de pouvoir se projeter dans la langue, participer à la vie de la classe, etc., ça a pris un petit peu de temps. Donc voilà, ça a vraiment commencé à notre première, à notre deuxième rentrée scolaire. Donc au bout d'un an, là, c'était vraiment, on rentrait dans les habitudes, ils changeaient de classe, mais il n'y avait pas de traumatisme, c'est simple et facile, et ils parlaient bien l'anglais. Et maintenant, avec cette rentrée scolaire-ci, qui donc est notre troisième rentrée scolaire, en fait, on est confronté au problème inverse, c'est-à-dire que les enfants se mettent à parler anglais à table. Ils sont incapables de faire une phrase en français sans utiliser 3 mots d'anglais dedans, quoi. Et donc, c'est assez marrant, mais c'est ce que pas mal d'expats vivent, hein, mais c'est, maintenant, il va falloir défendre le français, quoi.
C'est ça. Que le français retrouve sa place à la maison.
Exactement. Mais quand moi-même, je travaille dans une start-up où il y a pas mal de mots, parce que le mot start-up, tu vois, quand tu dis à longueur de journée, oui, j'ai envie de faire du gros hacking dans mon CRM, dans ma start-up, déjà, c'est un peu du franglais, donc, à la maison, c'est...
Tu montres pas l'exemple.
Exactement.
Oui, donc tu es arrivé donc aux États-Unis pour le boulot, donc tu avais racheté un de tes concurrents. Tu es arrivé dans une nouvelle ville, un nouveau pays. Comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur dans un nouvel écosystème pour se faire sa place?
Alors, écoute, c'est une bonne question et je ne sais pas si j'ai encore la réponse, parce que pour l'instant, la place de Home Exchange aux États-Unis, on ne s'est pas encore complètement faite. Donc, moi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, je commence à bien trouver mes marques. Mais en revanche, le défi de développer ma boîte et notamment une marque grand public, donc ce qu'on appelle le B2C aux États-Unis, c'est un défi qu'on n'a pas encore relevé, sur lequel on continue de s'attaquer tous les jours. Et pour être honnête, que peu de boîtes françaises relèvent. C'est-à-dire que si tu parles pas des marques, soit dans la nourriture, soit dans le luxe, il n'y a pas beaucoup de marques françaises qui sont connues en marque grand public. Et sur Internet, il y en a pratiquement Aucune. Tu vois, si tu penses aux plus grandes startups françaises comme je sais pas moi, Vente Privée ou
Blablacar
ou Le Bon Coin ou tout ça, bah ça n'existe pas aux États-Unis. C'est pas des marques qui existent aux États-Unis. C'est pas des entreprises qui ont réussi ou qui ont essayé d'aller aux États-Unis. Donc c'est un vrai défi. Et là-dessus, une chose qui moi a été une sorte de prise de conscience, c'est que en France, sans être très connu, il se trouve que lorsque je suis venu aux États-Unis dans l'année, on avait donc racheté notre concurrent américain, ce qui est déjà une histoire qui intéressait un peu les médias, et on avait fait la 6e plus grosse levée de fonds, donc on était un peu dans le top 10 des levées, donc ça permettait de faire un petit peu un nom et d'avoir quand on émettait une petite news dans un communiqué de presse, d'être repris, etc. On avait régulièrement des citations dans la presse économique comme les Échos, des trucs comme ça. Donc voilà, on était très très loin d'être des stars, mais en tout cas, on avait un petit succès d'estime et la visibilité. Et ce qui a été rafraîchissant, on va dire, en arrivant aux États-Unis, c'est que on était pas du tout visible. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne on a voulu faire une sorte de roadshow pour le rachat de notre concurrent américain et en gros il y a trois rendez-vous de journalistes qu'on a eu et qui finalement étaient des rendez-vous avec des stagiaires dont deux ont été annulés parce qu'ils n'avaient pas le temps. On a racheté notre concurrent canadien là quand j'étais là, donc 6 mois après mon arrivée je me suis occupé du rachat de notre concurrent canadien, donc on a fait un peu des communiqués de presse là-dessus, et donc en France ils ont été repris et ici on n'arrivait même pas à être reprise dans la newsletter des startups du digital de Boston, donc un truc quand même assez niche comme communication.
Ouais.
On n'avait pas du tout à être pris. Et c'est un ami entrepreneur qui m'avait dit, il y a sûrement des gens qui écoutent le podcast qui sont d'origine albanaise, donc c'est pas pour les Albanais en particulier que je dis ça, on pourrait dire ça avec plein de pays dans le monde, mais lui m'avait donné l'exemple avec les Albanais en disant, en fait, quand t'arrives aux États-Unis depuis la France, c'est un peu si t'as un Albanais qui arrive en France. Et donc quelqu'un qui te dit mais attends, tu verrais moi ma boîte, c'est un carton en Albanie où je suis très gros ou vraiment je suis connu ou les médias en Albanie ils parlent de moi. Bah il se trouve que la manière dont les préjugés en France marchent font que c'est pas quelque chose qui te donne beaucoup de crédibilité dans la sphère économique ou la sphère publique française. Et c'est vrai de plein d'autres petits pays de nouveau. Et ben voilà, quand t'arrives aux États-Unis, je sais pas si t'as vu la série GAD. Gad, il fait une série Netflix. Ouais.
Je suis connu en France, mais voilà, pas du tout.
Et c'est un peu ça. C'est le mec, il n'arrête pas d'essayer de montrer son écran sur son smartphone pour dire qu'il est connu et qu'il a genre 1 million de followers. Et les Américains lui disent non, mais ça compte pas. Il va dire mais si, c'est 1 million de followers, c'est des vraies personnes, ça compte. Et les autres lui disent non, mais c'est pas des Américains, quoi. Et donc il y a un tout petit peu de ça. C'est-à-dire que je m'étais préparé au fait qu'on soit pas accueilli avec un tapis rouge, mais le fait que on ait du mal à intéresser tout court, notamment au niveau des médias, qui pour nous est un enjeu en termes de notoriété, c'est un peu nouveau et c'est rafraîchissant aussi. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que moi j'ai quitté donc un siège où on était une cinquantaine de personnes que j'avais embauchées dans des locaux que j'avais choisis avec un peu la déco start-up et tout qui va bien, pour arriver tout seul dans un bureau qui ressemblait un peu à un placard à balai. Il fallait un bureau qui ferme, sinon les autorités ne me donnaient pas mon visa. Donc voilà, j'avais un bureau qui ferme.
Sérieux?
Ça fait partie des trucs, donc tu verras, il y a pas mal d'espace de
coworking.
Donc tu
pouvais pas être en open space avec ce qu'ils appellent les hot desks qui sont pas attitrés à quelqu'un.
Tu veux pas avoir ton visa, en tout cas moi, donc j'ai un visa L1, et il faut démontrer que tu vas dans une vraie société. Donc une vraie société, c'est une société qui a un bureau qui ferme. Si le bureau ne ferme pas, ce n'est pas une vraie société.
Ah wow.
Les autorités américaines. Et donc voilà, j'avais mon placard à balai tout seul avec des gens, j'ai envie de dire bonjour dans l'ascenseur ou dans l'équivalent du WeWork où j'étais, et voilà, j'avais pas encore beaucoup de succès. Donc c'est assez rafraîchissant parce que du coup tu te retrouves un petit peu, je sais pas, comme Rastignac dans À nous deux Paris, tu te retrouves un peu avec cette espèce de truc de dire si je veux vraiment conquérir les États-Unis, il y a rien qui va m'être donné. Il faut que je me lance, il faut que j'y arrive, il faut que je trouve les manières. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, c'est partie des plaisirs, quoi. T'as une sorte de reset à zéro.
C'est ce que j'allais dire. Tu reprends presque quelques années en arrière, quoi.
Exactement. Donc ça, c'est super. Et en même temps, c'est pas complètement vrai parce que quand j'ai créé ma boîte, j'avais pas 1 euro de budget, alors que là j'ai du budget, je peux me payer, j'ai pas de crainte pour ma situation.
Avec un certain confort.
Exactement, c'est reprendre avec un certain confort, mais c'est quand même mentalement un petit peu de gymnastique pour se relancer, c'est dire allez, voilà. Exactement, mais c'est très très bien d'avoir un petit rappel comme ça. Donc c'est super. Et donc ce défi-là, moi j'ai pas du tout encore remporter. Tu me demandais comment est-ce que je me fais ma place aujourd'hui. Je suis, tu vois, j'ai un dans un groupe des startups du travel, et je suis avec deux personnes qui en gros ont un PowerPoint et sont en train d'essayer de lever leur premier fonds pour le transformer en site web. Donc vraiment là où moi j'étais il y a quelques années. Ouais. Et en fait, ils m'ont donné des conseils super pertinents sur des trucs que je pourrais faire pour développer ma marque aux États-Unis. Donc voilà, je suis en train de recomprendre depuis zéro comment développer la marque en B2C aux États-Unis. Ouais. Et voilà, et une des manières dont j'ai essayé aussi de me faire ma place, c'est de miser sur le réseau français, parce qu'il y a un bon réseau français à Boston, et c'était une super manière pour moi d'avoir facilement là des gens qui me disaient: ah, mais on voit qui t'es, on voit ce que tu fais, c'est pas si mal. Ouais. Et donc ça faisait un petit peu de soutien au moral en mangeant du fromage et en buvant du vin.
Mais justement, parlons-en. Voilà. Parlons-en. Nous, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. C'était, je me souviens, une soirée d'hiver en 2018, où donc en fait c'était le pré-lancement, je dirais. C'était un rendez-vous avec un, je sais pas si on peut appeler ça un groupe de travail, à se dire: ok, est-ce que on se met ensemble et on essaye de lancer French Tech Boston. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement d'où c'est parti, et puis qu'est-ce que ça apporte, voilà, en tant qu'expat français, ce réseau.
L'initiative de la French Tech, c'était ça, c'était une volonté de changer un petit peu la marque France, de dire: ben, oui, c'est vrai, en France, on est un beau pays, on fait du super bon vin, du super bon fromage, mais en fait, on a aussi des super entreprises, des super entrepreneurs, des boîtes technologiques, voilà, un peu des métiers d'avenir, et changer l'image de la France avec sans doute un benchmark qui est Israël, avec cette idée de Startup Nation où pour le coup, c'est une réalité du pays, où il y a énormément d'Israéliens qui sont entrepreneurs avec beaucoup de succès. Des succès comme Waze, dont on est nombreux à servir pour éviter des bouchons qui viennent d'Israël. Et donc il y a cette volonté en fait d'arriver aussi à changer l'image de la France. Donc ça, voilà, c'est la première chose que fait la French Tech, c'est qu'elle labellise des entreprises, ensuite elle labellise des communautés en France, et enfin le troisième chose que la French Tech fait, c'est de labelliser des communautés à l'étranger, donc des communautés comme la communauté de Boston. Sachant que quand je suis arrivé en 2017 aux États-Unis, en fait, il y avait en Amérique du Nord, il y avait San Francisco, Los Angeles, New York et Montréal qui étaient labellisés, mais c'est tout. Et puisque j'avais eu mon label d'entreprise quelques mois auparavant, ils m'avaient contacté en me disant: tiens, tu vas à Boston, il y a quelques entrepreneurs sur place qui sont motivés, essayez de vous réunir et d'arriver à faire un groupe. Donc, c'est comme ça que je t'avais rencontré, qu'il y avait d'autres entrepreneurs avec lesquels on s'est réunis, et on a lancé la French Tech de Boston avec un petit peu cette idée qu'il fallait réparer une erreur quelque part, parce qu'on a un écosystème à Boston qui est incroyable. On a par exemple en termes d'investissement de capital risque dans le venture capital, c'est 20% plus gros que New York, donc c'est très très conséquent. Donc c'est deuxième après San Francisco, et pourtant c'est pas très visible. En France, il y a pas beaucoup d'initiatives. Il y a encore plein d'entrepreneurs qui ne savent pas qu'on peut aller à Boston et les développer bien. Et donc, voilà, en donnant une visibilité à cette communauté, et ben, on a pu donner une visibilité à Boston en France, et puis on a pu aussi donner une visibilité à la France auprès de l'écosystème de Boston.
Donc, est-ce que du coup, on a une idée parmi la population expatriée française qu'on retrouve à Boston de la proportion de cette population qui serait entrepreneur, en fait? J'essaie d'avoir un petit peu une idée de cette startup nation dont tu parlais, et donc de cette tranche entrepreneuriale qu'on retrouve parmi les expatriés. Et en fait, ça me fait penser à en tant qu'expatrié, je crois qu'on a une grande soif d'aventure, et je trouve que c'est assez similaire finalement à l'entrepreneuriat. C'est une grande aventure avec ses ups and downs, et donc voilà. Si tu peux m'en parler un petit peu.
Alors, t'as tout à fait raison sur le côté le soif d'aventure, et t'as une entrepreneur chinoise que j'avais entendue sur un super podcast qui s'appelle How I Built This de NPR, de Guy Raz. Je vous recommande d'écouter si jamais vous l'avez jamais entendu, parce que c'est des histoires d'entrepreneurs. Ce qui fait du bien, c'est qu'il y en a peu qui sont dans le digital. Finalement, il y a plein de boîtes qui sont beaucoup plus réelles et concrètes, et c'est vraiment les histoires. Quand on vous donne pas des leçons sur ce qu'il faudrait faire, etc., mais c'est le parcours d'une personne. Et donc cette personne était d'origine chinoise, et elle disait en fait, pour elle, l'immigration était extrêmement positive aux États-Unis, parce que il y a des telles choses à surmonter pour pouvoir changer de pays, que forcément il y a une sélection un peu naturelle, où ceux qui arrivent dans un autre pays, c'est des gens qui sont plus motivés, plus débrouillards, plus entreprenants que les autres. Donc ouais, je trouve qu'il y a le parallèle est super justifié. Alors ensuite, la population d'entrepreneurs dans celle de au sein de la population d'experts français, elle est faible parce que aujourd'hui au sein du réseau, on a un peu moins de 100 membres, alors que je pense qu'il doit y avoir 10 000 Français à Boston. Sachant qu'on a pas mal de gens qui sont en fait dans la population française de Boston, des étudiants ou des profs dans enfants, les universités. Il ouais. y a quoi ?
Dans les 10 000, il doit y avoir les enfants aussi.
Oui, enfin, t'as raison. Ouais. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément encore créé de boîte. Et puis ensuite, mm-hmm. t'as pas mal de gens qui bossent dans des grands groupes. On a des très beaux groupes à Boston, Sanofi, Dassault, Keolis, Veolia, etc. Et donc, il y a pas mal d'expats qui sont plutôt dans ce format-là. Mais j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à traverser l'océan pour partir à découverte et à la conquête des États-Unis en tant qu'entrepreneur et à choisir Boston pour poser ses valises.
Oui, alors Emmanuel, du coup, il y a énormément d'expatriés qui, eux, carrément, rentrent en France le jour où ils attendent le premier bébé ou le deuxième, parce que la vie aux États-Unis, elle est quand même particulièrement chère. Certes, tu dis qu'à Boston, c'est un petit peu moins cher qu'à New York, mais moi, qui suis maman depuis pas très longtemps, je peux te dire que je trouve quand même la vie pas donnée. Il y a d'ailleurs une étude qui est sortie il y a pas très très longtemps de l'ARS, qui est le fisc américain, et qui montrait qu'en fait, Boston est la ville la plus chère aux États-Unis pour élever un enfant entre 0 et 16 ans, je crois. Donc, bref. Et du coup, voilà, je voulais te demander, toi, donc tu as 4 enfants, vous avez 4 enfants avec Laure. Comment est-ce qu'on fait voilà quoi. Enfin, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile. Surtout que vous êtes pas venu. Donc toi, t'es venu avec ta boîte. T'as pas forcément un contrat d'expatrié qui sont un peu les contrats en or. Et puis, bah voilà, comment est-ce que tu fais pour profiter de cette expatriation pour, je sais pas, aller visiter un peu le pays avec ta famille, ce qui n'est pas forcément donné quand on se déplace à 6. Tu peux nous raconter?
Oui, bien sûr. C'est un défi de tous les jours. On utilise des outils modernes. On a un Google Agenda. On se WhatsApp 3 fois par jour pour être bien sûr de qui récupère quand, quel enfant, et si on n'a pas oublié telle activité ou tel rendez-vous de tout bip. C'est un défi. Je ne veux pas dire que c'est hyper facile, mais c'est complètement gérable. Et après, on a la chance d'être très aidé. Au sens de, on a eu pendant 2 ans des jeunes filles au pair qui sont venues et qui nous ont donné des coups de main.
Ah, c'est
là,
ça ton secret.
Exactement. Et là, avec notre petit dernier Joachim, on a pris une nounou à plein temps à la maison, donc ce qui facilite pas mal. Mais de toute manière, c'est un défi. Je pense que n'importe quel parent de famille avec... n'importe quel parent, en fait, trouvera ça un défi. Je me rappelle très bien, quand j'en avais un, j'étais dépassé, et quand j'en ai 4, je suis toujours dépassé. Donc ouais, c'est juste un énorme défi, les enfants. Mais après, est-ce que je le suis plus que à Paris? Je pense que la question, elle est financière, effectivement, t'as raison, mais l'aspect logistique, etc., c'est pas plus compliqué. Moi, mes deux grands, ils sont en école publique, qui est juste à côté de la maison, et qui est gratuite, donc c'est pas plus cher, c'est plus pour celui qui a la crèche, qui coûte cher, et puis ensuite... la garde, c'est un peu plus cher. Les babysitting sont chers. On trouve des babysitting à 16-18 $, là où à Paris, on paye 8 €. Et la santé est chère. Ça, c'est sûr, la santé est très chère aux États-Unis. Donc oui, si vous voulez venir, moi, c'est un des conseils que je donne aux experts, parce qu'il y a assez souvent des amis d'amis qui m'appellent en me demandant est-ce que c'est possible, etc. Il faut juste être sûr de bien négocier son contrat et d'arriver avec... avec le bon type de package. Nous, on avait fait faire une étude et le ratio, c'était 1,88, celui que j'ai en mémoire. Donc, tu prenais ton salaire brut en euros, tu multipliais par 1,88 et ça donnait ton salaire brut en dollars qu'il fallait avoir pour...
Boston ou pour les États-Unis en moyenne?
Pour Boston.
Ah, wow.
C'est ça ce que j'avais en tête et du coup, c'est ça ce que je me suis
appliqué. Donc, un salaire parisien, j'imagine, parce que pareil...
Un salaire parisien.
D'accord.
Voilà. Et sur le fait de profiter un peu, ça t'as complètement raison. Déjà, ce qui est super, c'est que d'un point de vue amical, on s'est fait plus de copains dans les 6 premiers mois de l'expatriation que dans les 10 dernières années à Paris, parce qu'on tournait un peu toujours avec les mêmes potes. Et puis t'as des contraintes un peu quoi, des rendez-vous familiaux, des déjeuners, etc. Donc tu sors moins, alors que ici t'as pas de famille et t'arrives, t'as pas beaucoup d'amis, donc tu rencontres beaucoup de personnes. Aussi, on a la chance d'habiter un endroit qui est vraiment fantastique pour aller passer des week-ends. Là, tu vois, on est à la veille d'un long week-end quand on enregistre ce podcast. Donc, on va aller pendant 3 jours dans les Berkshire, qui est dans l'ouest du Massachusetts. Un endroit magnifique. Bon, en plus, il y a des super beaux musées. Et puis, c'est une période avec le foliage, donc des les feuilles des arbres qui sont magnifiques. On a été il y a pas si longtemps que ça dans le Maine de faire du camping. On peut aller même faire des balades. En fait, il y a des étangs, il y a des petits ponds, ce qu'ils appellent à 10 minutes de la maison. On peut aller se baigner dans un pond de l'eau douce et c'est joli. Et c'est super quoi. Donc on bouge beaucoup plus qu'on le faisait à Paris. Et après, c'est aussi lié au fait qu'on a une voiture, qu'à Paris, on était des vrais Parisiens, donc on était tout en métro, et du coup, dès qu'il s'agissait de sortir le week-end, c'était plus compliqué. Ouais. Alors que là, on a deux voitures, donc il y a un choc culturel pour la famille. Voilà, exactement. en tout cas, moi, ce que j'espère garder, si jamais je reviens en France un jour, ça sera justement le fait de bouger le week-end et d'aller explorer, parce que la France est un pays superbe, et on doit pouvoir faire autant de choses qu'en Nouvelle-Angleterre.
Saisir toutes les opportunités qu'on a, en fait. C'est vrai qu'en tant qu'expat, moi, je sais que c'est une des réflexions que je m'étais faite, c'est que j'avais l'impression d'être beaucoup moins ennuyée par le quotidien parce que on est beaucoup plus dans un mode où on cherche à profiter un peu de chaque moment qu'on passe par ici, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, quand t'arrives, tout est nouveau, donc il y a l'émerveillement de la découverte. Et puis, au fur et à mesure, tu passes un peu de temps, tu sais que, en tout cas, nous, c'est notre projet de famille, on va pas rester toute notre vie aux États-Unis, on a envie de réimporter les enfants en France avant qu'ils soient adolescents. Et du coup, on se dit, tiens, si jamais on a envie de se faire les grands parcs américains, ou si jamais on a envie d'aller voir, New York avec les enfants, du coup, il faut qu'on le casse, faut qu'on s'en occupe, etc. Alors que on s'est jamais dit la même chose sur aller voir, Berlin avec les enfants quand on était à Paris, alors que on aurait pu aussi, quoi.
Bon, et alors, du coup, tu es venu donc ici pour Home Exchange. Home Exchange, c'est donc la plateforme qui te permet d'échanger. Est-ce que t'es un de tes propres clients? Est-ce que t'en profites avec ta famille?
Écoute, merci de me poser la question. C'est vrai que on utilise beaucoup Excel aussi pour se balader parce que quand on est une famille nombreuse, aller à l'hôtel ça coûte assez cher et puis on a un budget qui a des contraintes. Donc nous, en avril dernier, on a par exemple été en Caroline du Sud, donc à Charleston, qui est superbe, vraiment un très beau voyage que je recommande. Et voilà, on a fait un échange de maison. On est allé dans une grande maison avec 6 chambres. Et vu que les personnes ne voulaient pas venir chez nous parce qu'ils n'étaient pas intéressés par Boston, on leur a donné des points. C'est un des avantages de Mexchange, c'est qu'il y a un système de points. Et du coup, pendant que nous, on était chez ces personnes-là à Charleston, il y a des gens de Montréal qui sont venus chez nous et qui nous ont donné des points. Et à Thanksgiving de l'année d'avant, on était à Montréal aussi avec des échanges de maisons. Et là, on va aller à New York aussi avec des échanges de maisons. Donc voilà, en gros, on paye plus de lieux de vacances grâce à Home Exchange.
Ouais, donc t'es vraiment ton propre client.
J'invite tous les expats qui seraient intéressés par le concept à nous envoyer un email sur expat@homeexchange.com. Et je pense que le concept est vraiment pertinent pour les expats parce qu'on a assez souvent des visites et ça arrive que soit l'appartement ou la maison qu'on occupe soit pas assez grande pour recevoir la famille, soit qu'on n'ait pas très envie de passer une semaine avec ses beaux-parents sous le même toit. Et donc l'échange de maison permet aussi d'avoir une maison d'appoint pas trop loin de la maison.
D'accord, donc on peut t'écrire, te raconter notre projet et puis tu peux, tu auras quelqu'un de ton équipe qui peut nous filer un coup de main.
Oui, on peut tout à fait. On peut faire un petit code promo. Là, je n'en ai pas préparé avant le début de la réunion. Donc. Et puis de répondre aux questions. Il y a plein de gens qui ont un petit peu peur avant de faire la première échange de maison. Donc on est ravis de répondre.
Une des questions donc qu'on aime poser pour finir chaque épisode, c'est découvrir en fait la ville de notre invité. Donc est-ce que il y a trois endroits dont tu pourrais nous parler qui sont pour toi Boston ou alors que ce soit ton je sais pas si c'est un coin dans lequel t'aimes aller te balader avec ta famille, aller prendre un café avec ta femme ou partir en vacances dans le coin ou en week-end. Si tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est et pourquoi c'est des endroits qui sont importants pour toi.
D'accord, écoute, avec plaisir. Pour moi, quelque chose qui est so Cambridge, c'est forcément le campus d'Harvard. J'ai des super souvenirs, je trouve que c'est très très beau et j'aime beaucoup.
C'est un peu Harry Potter, hein.
Oui, c'est un peu Harry Potter, complètement. Et j'aime beaucoup aussi quand t'es un peu plus bas, donc quand t'es sur le campus de la Kennedy School, t'as une très jolie vue de la Charles River, je trouve. Pour ceux qui ont vu le film The Social Network, c'est l'endroit où les gens font de l'aviron. Donc, il y a les frères Winklevoss, des associés de Mark Zuckerberg qui faisaient de l'aviron là-bas. Et moi, j'ai aussi fait de l'aviron à cet endroit-là quand j'étais étudiant. Donc, ça me rappelle des bons souvenirs. Donc, j'aime bien tout ce coin-là. Ouais. J'aime beaucoup le Decordoba Museum à Lincoln, c'est un petit peu plus loin, qui est en fait un musée en plein air, c'est un musée de statues, donc c'est un grand parc, très beau, et c'est super de pouvoir se faire un musée avec des enfants qui ne s'impatientent pas, mais qui regardent, qui font d'une statue à l'autre, et voilà. Et après, C'est dur d'en choisir que trois. J'hésite à parler de deux choses. Il y en a une, c'est Cape Cod. En fait, Cape Cod, j'adore. C'est 2-3 heures de route depuis Boston, voire un peu plus si on va jusqu'à Provincetown. Il y a énormément de diversité. Il y a plein de choses à faire et
au bord de la mer.
Vraiment, ouais, c'est super, quoi. Et après, il y a le Heartbreak Reservation que j'ai découvert il y a 2 semaines.
Je ne connais pas.
Grâce à une app que je recommande quand vous êtes pas aux États-Unis, qui s'appelle All Trails. Voilà.
Ah oui, c'est vrai.
Tous les randos, quoi. Et donc, en faisant les meilleurs randos à côté de la maison, donc à 20 minutes de la maison en voiture, j'ai découvert un petit bijou avec deux lacs d'eau douce. On peut se balader avec les enfants, marcher à travers les bois. On arrive au lac, tu te baignes, c'est sympa, quoi. C'est des trous simples et c'était tout vide, parce que c'est moins connu que d'autres choses comme Walden Pond ou d'autres voilà, qui sont un peu les plus connus. Donc plein de choses que j'adore. Et puis aussi le lobster roll, et puis aussi le clam chowder, et puis aussi plein d'autres choses.
Exactement. Et puis Boston, c'est vrai que c'est quand même une ville où on mange bien. Écoute, je te dis un énorme merci, Emmanuel, d'avoir pris le temps de discuter avec moi en ce vendredi après-midi pluvieux et venteux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Écoute, déjà que l'été indien se prolonge, parce que là, tu dis que c'est pluvieux et venteux, et c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est pas trop l'été indien, mais on en a eu beaucoup. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, je me baignais encore au mois de novembre, donc j'espère que l'été indien va se prolonger. Et tu peux me souhaiter quoi? Tu peux me souhaiter, pour ma boîte, que l'échange de maisons soit toujours plus connu à travers les États-Unis, et que j'arrive à avoir une émission avec Oprah ou un truc comme ça pour parler d'échange de maisons. Et à titre personnel, écoute, que mon fils Joachim arrête de faire les dents. Il a 6 mois, il a 6 dents, je n'en peux plus. Je veux qu'il s'arrête à 6 dents.
Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite.
Merci beaucoup, bonne fleur.
Un grand, grand merci. Dernière question, c'est si nos auditeurs veulent te retrouver et, je sais pas, continuer la conversation avec toi, ils peuvent te trouver où?
Écoute, LinkedIn, je suis assez facilement joignable par LinkedIn. Ouais. Ou sinon, bien sûr, sur Homexchange, vous pouvez faire un échange de maison.
Vous pouvez venir vivre dans la maison d'Emmanuel.
Voilà, je suis le membre numéro 1, donc c'est facile. Quand tu regardes l'URL, t'as le user, tu fais /1, et c'est bon. C'est facile à trouver.
Ok. Super. Mais écoute, un grand merci de t'être prêté au jeu, d'avoir raconté un peu ton histoire personnelle, entrepreneuriale et familiale. C'était super intéressant. Je te souhaite une excellente continuation et un bon long week-end dans les Berkshire.
Merci à bientôt. À toi, Anne-Fleur. Bon week-end.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée, c'est le meilleur moyen de nous aider. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions, ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ou même LinkedIn, French Expat, le podcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, direction notre site web frenchexpatpodcast.com. Le prochain épisode, c'est avec Laetitia et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours. Excellente semaine à tous et à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.